Le numéro d'automne de la revue Continuité s'intéresse au patrimoine familial. Automne 2020, il va sans dire. Et pour en savoir plus, je joins avec plaisir Josiane Ouellet, rédactrice en chef de Continuité. Bonjour, Madame Ouellet.
Bonjour, Madame Denis.
Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, dites-nous ce qu'est le patrimoine familial. Quelle forme prend-il?
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce type de patrimoine, c'est qu'il prend toutes sortes de formes. Alors, ça peut autant être des lettres, des photos, des meubles, de la vaisselle, des œuvres d'art, des vêtements, des bijoux. Ça peut même être une maison, une voiture. Alors, tout ce qui... tous des objets, des documents qui sont, dans le fond, transmis de génération en génération et qui racontent l'histoire d'une famille. Alors,
et qu'est-ce que vous avez... Oui? Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre de l'avant dans justement votre dossier spécial qui est absolument, j'allais dire grandiose, mais on ne peut plus complet.
Ben merci. Oui, ben en fait, nous, c'est ça, on s'est intéressé à ce patrimoine-là parce que c'est un patrimoine particulier dans le sens où c'est que un patrimoine qui est très, très personnel, intime, qui n'a pas nécessairement de valeur culturelle, sociale plus large ou de valeur monétaire très importante, quoi qu'il puisse avoir une valeur monétaire et sociale et culturelle, mais parfois, c'est un patrimoine qui a simplement une valeur sentimentale, une valeur identitaire. Et il faut pas le négliger pour autant. C'est pas parce que certains objets ont une signification juste pour nous, pour notre famille, parce qu'ils témoignent de notre histoire personnelle qui ne mérite pas d'être transmis, d'être conservé. Mm-hmm. Alors, c'est un peu, en réunion de comité de rédaction, il y a un des membres qui disait, c'est le degré zéro du patrimoine. Donc, c'est vraiment la base. Puis, c'est souvent par là aussi que les gens en viennent à s'intéresser à l'histoire de la société et au patrimoine collectif. C'est en commençant par leur patrimoine à eux, à s'intéresser à leurs origines, leurs ancêtres, à ce qui leur a été transmis, puis souvent, ça ouvre la porte à quelque chose de plus large. Alors, c'est pour ça que nous, on trouvait ça intéressant de se pencher sur cette question-là. Puis, pour revenir à ce que vous me demandiez, bien, on a voulu explorer les différentes valeurs que peut prendre ce patrimoine-là.
OK.
Donc, autant, bon, la valeur sentimentale, identitaire. Alors, pour ça, on a voulu parler à des gens du public. On a fait un appel à tous dans nos médias sociaux, demandant aux gens si vous avez vraiment à cœur votre patrimoine familial, vous avez envie de nous faire découvrir des objets de votre patrimoine, nous expliquer de quoi ils témoignent, pourquoi c'est important pour vous. Faites-nous signe, on aimerait ça interviewer quelques personnes là-dessus. Puis on a eu quand même beaucoup de réponses intéressantes, des gens qui nous racontaient leur histoire. Il y en a qui allaient vraiment dans les détails. Et bien évidemment, on ne pouvait pas interviewer tout le monde, mais on a choisi là, 4 personnes là-dedans pour les interviewer. Donc, ça, c'est un téléphone sur la valeur sentimentale, identitaire. Ça nous parle de nos racines. C'est pour ça que c'est important pour nous, même si, dans le fond, ces objets-là, on ne pourrait pas les vendre à un prix intéressant, par exemple, à un antiquaire, ou bien même les céder à un musée.
Alors, ces personnes-là, vous les appelez les gardiens de patrimoine familial et vous les avez invités à partager leurs joyaux. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou deux?
Bien, des fois, ça peut être aussi simple que des carnets de caisse ou, il y avait...
Un livre de recettes?
Un livre de recettes. Un monsieur nous parlait du coucou qui appartenait à sa grand-mère, puis elle était immigrée des États-Unis, donc elle avait épousé un Québécois. Donc, ce coucou-là, pour lui, racontait l'histoire de sa grand-mère. Ça peut être... on avait une dame aussi, c'est un petit nécessaire à ongles, mais elle, donc, c'est sa famille qui avait quitté la Turquie avant le génocide en 1915. Alors, il y avait toute une signification par rapport à cet héritage-là. Donc, on avait toutes sortes d'exemples très variés. Ça pouvait être une photo de famille. Donc, une dame, elle, c'était une photo de ses grands-parents qu'elle garde précieusement, qu'elle a mis dans un cadre et qu'elle rend hommage à ses grands-parents comme ça, en les ayant toujours à la vue. Donc, on découvre toutes sortes d'histoires comme ça avec différents objets.
Oui, et puis, on prend conscience aussi de l'importance pour ceux et celles peut-être qui n'y avaient pas pensé, mais les parents, les arrière-grands-parents, les personnes âgées étrangers sont des porteurs d'histoire. Moi, j'ai des souvenirs de regarder des albums vieux, des albums de photos en compagnie de mon père qui me racontait l'histoire de ses parents et ses grands-parents. Et c'est précieux, ça, parce que ça nous fait remonter dans le temps. Puis c'est presque un cours d'histoire. C'est privé, mais en même temps, c'est universel.
Oui, effectivement, puis c'est très, très, très important. D'ailleurs, Christian Denis, qui signe le texte d'ouverture, lui, il a travaillé pendant très longtemps au Musée de la civilisation. Il s'occupait du programme Patrimoine à domicile, qui est un programme qui visait à valoriser justement le patrimoine familial. Dit dans son texte, il y a cette dimension-là aussi de patrimoine immatériel, les histoires qui nous sont transmises par nos ancêtres. Et c'est super important pour aussi documenter le patrimoine. Vous parliez des photos, on vous racontait qui était sur les photos. Donc, ça, c'est important. Quand on a parlé à des archivistes dans des musées, des centres d'archives, et ils nous disaient, eux, pour qu'un élément de patrimoine familial soit intéressant pour eux, par exemple, une photo, pour qu'elle soit intéressante, bien, il faut qu'elle soit documentée, il faut qu'on ait indiqué qui se trouve sur la photo, où ça a été pris. Ça donne de la valeur la photo.
Donc, quand ça a été pris aussi, la date?
Oui, c'est ça, à quel moment, qui est représenté. Parce qu'évidemment, une photo avec aucune information, bien, elle n'aura pas la même valeur. On ne sait pas ce que ça représente.
Ça reste anonyme.
C'est très important. Puis il y avait même le président d'un centre d'archives qu'on interviewait, nous disait, eux, ils organisent des activités avec des aînés de leur quartier, de leur secteur, pour essayer justement de montrer comment c'est important d'aller chercher l'information et tout ça pour les faire témoigner et garder ces témoignages-là. Parce qu'effectivement, il y a toute cette dimension-là qui est importante. Et puis justement, M. Denis disait, dans un contexte de COVID-19 où on voit, tu sais, le sort qui est réservé à nos aînés, puis tout ça, elle dit, on prend encore plus conscience de l'importance de leur témoignage, de leur histoire, de garder cette mémoire-là. Là.
Et il y a un texte de Gabriel Anctil sur l'intimité partagée qui nous fait prendre conscience aussi que c'est quand on perd les gens ou les objets qui disparaissent qu'on prend conscience de leur valeur inestimable.
Oui, ben parle entre autres de Lac Mégantic, là, où ils ont perdu des archives. Évidemment, il y a eu des pertes de vie, ce qui est tragique, là. Tu sais, on pense pas aux archives de prime abord, mais effectivement, ils ont perdu des archives qui étaient importantes. Donc, par exemple, je pense que donner l'exemple des livres scolaires qui remontaient là, quasiment au 19e siècle. Donc, effectivement, quand on les perd, on s'en rend compte. Et l'important, justement, c'est d'essayer de les préserver. Mm-hmm. Donc, dans ce texte-là, on dit justement, attention, ne jetez rien. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous paraître anodines. On pense que ça n'a pas de valeur. Puis, pour un archiviste, pour un conservateur de musée, ça peut avoir énormément de valeur. Par exemple...
Oui, allez-y.
Oui, ben en fait, c'est ça. Des fois, on ne sait pas non plus ce qui est recherché. Donc, il nous donnait des exemples de ce qui est peu... Il y a des domaines qui sont peu documentés, alors ils sont très intéressants à ce moment-là à recevoir des documents, des photos, des objets. Il parlait de la sexualité, les religions autres que la religion catholique, l'enfance, c'est peu documenté. Donc, quand on a quelque chose à leur offrir qui touche ces domaines-là, ils sont très, très contents. Par contre, si on arrive avec, par exemple, un ensemble de baptêmes, évidemment, ils en ont déjà beaucoup dans leur collection et donc ils seront probablement moins intéressés. Alors, c'est bien intéressant aussi de voir dans cet article-là qu'est-ce qui est plus en demande, si on veut, puis qu'est-ce qu'ils recherchent.
Même le patrimoine familial peut être tendance ou pas.
Oui, effectivement. Mais c'est ça dépend ce qu'ils comprennent.
Oui, et puis aussi, il y a des gens qui sont vieillissants. On est tous vieillissants de toute façon, puis on se dit, qu'est-ce que je vais faire avec tel objet parce que, justement, j'ai pas de descendants ou que mes descendants sont pas intéressés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre patrimoine familial? Vous le dites à l'intérieur de votre dossier.
Oui, bien, c'est sûr que c'est très complexe. Puis c'est sûr que... on est dans un contexte actuellement où, bon, c'est ça, il y a plusieurs des baby boomers qui arrivent à un âge où parfois ils quittent la maison familiale, puis donc là, ils veulent transmettre les objets. C'est pas facile. Évidemment, essayer de trouver des gens dans la famille qui sont prêts à les conserver. Si c'est pas possible, bien évidemment, on peut se tourner vers des musées, des centres d'archives, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur pour eux. Et puis, il y a aussi, on peut essayer de vendre. Là. C'est sûr que parfois, dans les successions, les gens héritent de la maison avec tout le patrimoine familial qui ne sont pas prêts à tout conserver. Alors, ça peut être bon. On a un article qui est un peu un article de service, dans le sens où on donne aux gens des clés là, pour savoir comment bien évaluer la valeur du patrimoine. C'est ça qui est idéalement, c'est de le conserver dans la famille, hein, parce que c'est là qu'il garde le plus son sens. Ou encore dans des institutions muséales, centres d'archives, mais il y a peut-être des collectionneurs aussi qui sont intéressés à avoir certains meubles, certains objets.
Oui.
Alors, comment bien les évaluer aussi? Parce que là, quand on hérite la maison avec tout ce qu'elle contient, là, on ne sait pas trop à qui s'adresser, quoi faire. L'article de Benoît là-bas, c'est vraiment très intéressant pour ça, parce que elle nous explique vraiment toutes les étapes. D'abord, bien identifier, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que nous, on veut comme tout vendre tout d'un coup? Ou bien on veut essayer d'aller chercher le meilleur prix pour certaines pièces? Est-ce qu'on tu sais, ça dépend aussi de l'héritage en question. Là, si on a un héritage qui a une valeur exceptionnelle, là, avec, par exemple, des antiquités rares, puis tout ça, bien là, à ce moment-là, il y a peut-être lieu d'organiser un encamp public ou de faire un don ou d'essayer de vendre aussi à des institutions.
Oui, c'est personnel à chacun, mais c'est bien quand même, parce qu'en lisant justement ce dossier-là, on a des pistes de réflexion. Ça nous aide dans notre processus là, quand on a ce genre de décision-là à prendre. Et peut-être en terminant, me nommer, parce qu'on il reste plus beaucoup de temps, là, mais il fallait vraiment mettre l'accent sur ce dossier-là. Les chroniques, en plus du dossier, il y a de la place pour des chroniques. Entre autres, vous nous faites connaître le moulin de la Rémy à Baie-Saint-Paul.
Oui. Ben, en fait, c'est bien intéressant cette initiative-là parce que c'est un moulin patrimonial, évidemment, qui est un lieu qui est ouvert aux visiteurs là, depuis un certain temps. Mais là, ils ont décidé de prendre un virage, de s'adapter pour pouvoir produire des farines biologiques. Donc, vraiment, pour garder le moulin vivant, qu'il ait une fonction, une vocation, ils ont adapté pour la production de farine biologique, là, vraiment selon les normes actuelles, tout en préservant le bâtiment patrimonial, les mécanismes et tout ça. Et c'est encore le meunier là, qui juge la qualité des farines. Et
ah
tout
oui.
Ça.
Alors, c'est une chronique à lire, un vieux moulin avec des équipements modernes. Il y a aussi la chronique numérique qui se penche sur le recours aux technologies de l'information dans le domaine de l'archéologie. Bref, c'est toujours intéressant. Continuité, c'est le numéro d'automne dont on parlait avec la rédactrice en chef, Mme Ouellette, Josiane Ouellette, et le numéro du magazine est donc en vente, en kiosque. On peut l'acheter en allant sur magazinecontinuité.com en format papier ou en format PDF.
Oui, c'est bien ça, okay. Exactement.
Bien, je vous remercie beaucoup. Ça passe toujours vite. On se reparle au prochain numéro, j'espère, sur l'hiver.
Oui, j'espère. Merci à vous. Bonne journée.
Merci.